There was boxes from the white van that you brought in.
Yeah.
All six will go back, I'm sorry.
Okay.
I don't need those.
Oh, no, we take this and we go back with it.
C'était plutôt le lieu qui réunissait les gens. On allait voir à Frisson s'il y avait quelque chose. Alors que maintenant, on va voir sur le réseau social où il va y avoir quelque chose. Ça change un peu la donne, je pense.
And this one. Cool.
The biggest.
Merci.
On est dans un autre monde. Tout se traite avec des fax, avec des téléphones avec des fils. Et on est passé d'un monde analogique à un monde numérique. Ça nous a demandé un effort d'adaptation. C'était inimaginable il y a 30 ans. Inimaginable.
Il faut juste avancer un petit peu, sinon on n'a pas assez de jus. Magnifique. Yeah. Là, c'est tout bon. Je te remercie.
Pour une ville comme Fribourg, il est extrêmement difficile de remplir une salle d'une capacité de 1200 personnes, en plus de la petite salle de 300 places.
Une fois, ça va suffire.
One table,
please.
Is enough? Maybe two.
Si on va avoir des groupes, il me faut des tables comme ça.
Ça joue. Et peut-être aussi un...
Globalement, l'humain a besoin d'expérience humaine et donc de live, quoi. Et de rencontrer des gens, et de se retrouver, et de se réunir, et d'échanger, et tout ça. C'est là où plus ça avance, plus moi je défends beaucoup ça d'ailleurs auprès des collectivités publiques, on se rend compte que Frisson c'est un lieu de cohésion sociale, presque avant un lieu des fois de culture en fait. C'est dingue!
Frisson, une idée un peu folle et surtout une urgence à faire bouger les lignes. À son ouverture en 1983, rien ne laisse présager que ce haut lieu de la culture alternative deviendra un emblème de la ville de Fribourg. En 40 ans, le club a déménagé 3 fois, il s'est réorganisé à de multiples reprises, il a vu se succéder plusieurs générations de passionnés, mais une chose n'a jamais changé durant toutes ces années, l'esprit de Frisson. Depuis 40 ans, Frisson c'est bien plus qu'une salle de concert, c'est d'abord une famille avec des membres qui vont et qui repartent, un lieu de rencontre et d'échange qui a coforgé l'identité de la ville tout entière et qui sert de trait d'union entre les régions germanophones et francophones du canton. Pour honorer ce haut lieu de culture, de rencontre et d'échange, ce podcast plonge dans les souvenirs de celles et ceux qui se sont engagés durant ces 40 dernières années pour faire de ce club de musique un espace mythique, unique et souvent décisif dans le parcours de celles et ceux qui y collaborent. Épisode 5. L'enjeu identitaire.
Le slogan de Frisson, non ?
Le slogan ? C'est quoi ? Il y en a un ?
Fort et fier depuis... je sais plus l'année.
Loud and proud since 1983, of course.
Ah oui, moi ça s'est venu vraiment beaucoup plus tard.
Oui, enfin, c'était ce qui a été en tout cas mis en place pour les 30 ans.
Ouais, c'est trop compliqué. Je parle pas... En plus, moi, Frisson, mon gros problème, c'était que je parlais tellement pas bien l'anglais que... Ouais, non, j'arriverai pas à le dire. Désolé, trop compliqué.
Loud and proud since 90. Tu veux que je repasse?
En 2003, Frisson célèbre ses 20 ans et la salle s'offre une mue complète de ses espaces. Le sens de la grande scène est inversé pour accueillir une nouvelle petite scène de 300 places appelée la Bobine, dotée de son propre bar, elle est destinée à offrir des concerts plus intimistes. Nouvelle loge, nouvelle cuisine, nouvelle toilette, nouveau bureau, tout est repensé pour offrir un meilleur confort de vie aux artistes, au public et aux équipes en place. Ces travaux contribuent à renforcer encore la bonne réputation dont jouit la salle depuis 2 décennies. Ce club, à l'aura sulfureuse, continue à faire briller les yeux des jeunes générations, déterminées à venir y investir toute leur énergie.
C'est un peu particulier. En fait, j'ai fait un rêve une nuit. Le matin, je me suis réveillé avec l'envie forte de travailler comme technicien du son. Et j'ai téléphoné le matin même à Frisson, qui m'ont dirigé vers Benou, qui gérait la technique. Et Benou m'a répondu « Viens ce soir, il y a un concert de stress ».
Vincent Sudan,
et j'ai commencé comme ça.
Actif dans l'aventure Frisson depuis plus de 15 ans.
J'allais le soir même. Et du coup, j'ai rejoint après l'équipe technique comme stagiaire, où je venais quasiment toutes les semaines travailler ici. Et Au bout de 2 ans, je suis passé assistant et 4 ans après, responsable.
J'ai grandi à Lucerne et je suis allé à l'école à Beromünster durant les 2 dernières années avant la Matu. Et là-bas, il y avait toujours un programme de frissons qui traînait dans un coin. Et à cette époque-là, j'avais remarqué que les groupes que j'écoutais jouaient toujours à frissons. Donc, quand je suis allé pour la première fois à Fribourg, j'avais évidemment envie d'aller voir ce fameux frisson. J'ai sauté sur l'occasion quand des amis ont déménagé à Fribourg.
Mathias Bierry, actif dans l'équipe Frisson durant 15 ans.
Après, je me suis finalement installé à Fribourg et c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains pour solliciter Frisson. Je leur ai écrit une lettre. Salut, je mixe de temps en temps à Lucerne et je viens de déménager à Fribourg. J'aimerais bien mixer un jour à Frisson si ça vous dit et que vous êtes intéressé. Et j'ai reçu une lettre en retour avec la réponse suivante. Appelle-moi. Et il y avait le numéro de téléphone de Frisson. Et voilà, j'ai appelé. Et c'est grâce à ces soirées où je mixais que j'ai rencontré plein de gens qui y travaillaient. Et voilà, tout s'est fait très naturellement.
J'ai connu Frisson à travers un ami. Il m'a appelé un soir pour si je peux travailler pour un renfort de sécu. Et puis là, j'ai dit oui. Puis c'est là, je pense, vers septembre 2007, un truc comme ça, quand j'étais étudiant.
Hamza Manaï.
Et puis.
Dans l'aventure Frisson depuis 15 ans.
J'ai intégré dans le groupe sécu au début, et puis après. Bar, et puis après à la caisse, quoi. Maintenant, c'est 2012, ouais. Je pense 10 ans, ouais.
Tout début, j'ai commencé à poser des affiches pour Frisson. C'est ma sœur qui faisait ça, et à un moment, elle avait un peu besoin d'aide, donc je l'ai aidé à faire ça, et puis après, c'était un peu... c'était un peu une guérilla, quoi. À l'époque, il n'y avait pas autant de règles sur l'affichage public.
Gilles Vider, impliqué à Frisson durant plus de 15 ans.
Et c'était un peu vraiment un matraquage aussi. On allait chercher des affiches, on couvrait la ville d'affiches. Et c'est vrai que c'était aussi une visibilité dans la vie urbaine que je trouve maintenant on voit un peu moins parce que c'est très réglementé. Il y a beaucoup d'afficheurs autorisés. Ça change beaucoup la dynamique. Alors des fois, ce n'était pas toujours très fair-play de recouvrir tout un mur de quelqu'un qui venait de passer 5 minutes avant, mais... C'était une bonne guerre et je trouvais que c'était aussi assez sympa de représenter d'une certaine manière les couleurs de Frisson en disant ah, voilà, maintenant il y a un truc qui va arriver ce week-end, tout le monde doit le voir. Donc je trouvais ça aussi assez intéressant.
J'ai eu un gros coup de bol. En fait, à un moment donné, j'ai définitivement quitté l'université sans aucun diplôme. Donc il fallait que je fasse autre chose. Et le jour même, je me suis inscrit dans une école de commerce. C'est dans cette école que j'ai découvert l'univers de la compta. Je me suis dit, bon, les maths, j'ai toujours aimé, ça devrait aller. Et dès le premier cours, je suis sorti de la salle de classe un peu euphorique. Je savais que je venais de trouver ma voie. À cette époque, les seuls comptables que je connaissais étaient ceux de Frisson, Walter, Maud et Patrick Bochung. Donc, j'ai contacté Patrick en lui disant « Hey, la comptabilité, ça me plaît bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est quoi les possibilités dans ce domaine ?» Il m'a répondu « Je n'en sais rien ». Et dans la foulée, il me dit « Tu sais quoi? J'arrête de travailler à Frisson. Ça te dit de postuler et reprendre mon poste ?» Et j'ai répondu du tac au tac, évidemment.
J'ai vu une annonce et je crois qu'il y a au moins les 3-4 personnes qui m'ont dit « Anya, regarde, il y a un truc là. Je pense que c'est un truc intéressant pour toi. » Et puis c'est vrai que quand j'ai lu le profil, c'était la première fois où je me suis dit « Ah, là, je pense que j'ai mes chances. Je coche presque toutes les cases, à part l'allemand, que je ne parle toujours pas d'ailleurs, quelle honte. »
Anya Della Croce, membre de la famille Frisson pendant 4 ans.
Mais enfin voilà, c'était assez clair que j'avais envie J'étais programmatrice au Four Noise à l'époque, au festival. Et puis, c'était quelque chose que j'aimais faire vraiment. Et tout à coup, là, d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire de manière quotidienne, dans une salle comme Frisson aussi, c'était ça aussi. C'était cette salle mythique, quoi. C'était impressionnant pour moi de me dire, ah, peut-être que je vais aller travailler là, en fait. Et puis, j'ai envoyé mon dossier et j'ai eu le job. Bah, c'est flippant, un peu comme ça. T'as un côté un peu vertige. Enfin, voilà, c'est... Il y a ce côté pression, il faut... Y a ce côté vertigineux parce que c'est... quand t'arrives à Frisson, t'as 200 personnes qui travaillent, donc tu rencontres 200 personnes en une semaine. Enfin, j'exagère à peine, mais en un mois, t'as rencontré 200 nouvelles personnes. Donc voilà. Et puis ça prend du temps de s'approprier un petit peu les outils, le lieu, puis de comprendre... Puis le public aussi, de comprendre comment la salle fonctionne, savoir à quel public tu t'adresses. Enfin, ça prend du temps.
Après, je me suis orienté plutôt sur le son. Et là, c'était un super apprentissage. Il y a aussi beaucoup de choses que tu apprends sur le tas. Je trouve que c'est une école pour ça qui était super intéressante, mais aussi une éthique de travail. Il y a aussi cet aspect très éphémère de l'événementiel. Il y a une intensité, même si tu, des fois, fais des longues journées, c'est très intense parce que t'as un point culminant que tu dois pas louper, quoi. Et je trouve que c'était super. T'as un drive, il faut que ça se passe, il faut que ça cartonne, il faut que ça soit juste.
La semaine, je suis électricien. Ouais. Et puis, maintenant, c'est un extra de faire Frisson, tout. Ça décharge un peu. Et puis, c'est pas un travail parce que c'est un plaisir. Et puis, c'est une deuxième maison pour moi, Frisson.
Ce qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai dû monter sur scène pendant le concert de Stress pour lui apporter une chaise devant 1300 personnes, c'était sold out. Là, j'étais très 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 stressé de passer sur scène, juste apporter la chaise pour que Stress puisse s'asseoir pour une chanson.
Je faisais les moniteurs, donc le son sur scène pour je ne sais pas si tu connais la scène Supaku. Et à un moment, c'est un groupe que j'adore. J'étais hyper content de faire les mônes pour eux, j'étais à fond dedans. Et à un moment, il y a un des chanteurs qui fait un truc en solo où il fait des boucles sur un looper. Et il y a un Larsen qui part comme dans son micro. Et du coup, t'avais le Larsen dans toutes les boucles. Et le mec, il a arrêté, il était hyper énervé. Il m'a regardé, il a fait chier. Je me suis jamais senti aussi petit, quoi. C'était horrible. Puis en même temps, ben voilà, ça t'apprend à... C'est pas parce que t'es excité par un truc que tu dois manquer de vigilance. Il y a aussi un genre de truc que t'apprends un peu dans la douleur. Maintenant, j'en parle avec le sourire, mais ça reste. Ça, c'est un souvenir qui reste hyper fort. Le mec qui se retourne à moi et qui fait « Tu fais chier ». J'étais là « Oh !»
Tricky, je pense que c'était Tricky. Je sais plus, c'était un de ces gros groupes qui débarquait et qui avait pas d'éclairage. Je sais pas ce qu'ils ont demandé à Marcus. Mais ils voulaient un truc spécial, et là j'ai pu louer des découpes, donc ce qu'on emploie plutôt pour le théâtre, la danse.
François Gendre.
Un fond de guirlande complètement rempli, et puis...
Impliqué à Frisson durant une quinzaine d'années.
Enfin, tout d'un coup j'avais plein de matériel, puis j'ai travaillé 2-3 jours à l'avance pour faire quelque chose de joli. Et puis là, c'était mon plus beau souvenir, quoi, le concert lui-même, avec la meilleure musique du monde. Ouais. Oh, dans le moment, c'est quand même assez... c'est assez bandant, ouais.
Surfant sur cet équilibre subtil entre travail assidu et plaisir de faire partie de l'aventure Frisson, la salle de concert a toujours su allier passion et professionnalisme. C'est d'ailleurs dès les années 90, face à l'évolution d'un marché musical toujours plus concurrentiel, que le club va pousser la professionnalisation de ses équipes. Il met alors sur pied un système de formation interne unique et précurseur dans le milieu culturel du pays.
Frisson, enfin moi je ne faisais pas partie de cette équipe-là, mais ils ont mis en place une petite équipe qui formait les programmateurs musique.
Valérie Imbert, membre de l'équipe Frisson durant 24 ans.
Et puis à l'époque, c'était l'OFIAMT qui existait encore, l'Office de la formation professionnelle, mais non, ça a changé, c'est un autre office. C'était intéressé au système de formation que Frisson avait mis en place pour les programmateurs de musique.
Wir haben im Frisson tatsächlich ein
À Frisson, on avait un programme de formation à tous les niveaux. Par exemple, dans le domaine technique, on commençait comme stagiaire, par exemple en débutant par assembler des câbles et ce genre de choses. Ensuite, on pouvait devenir assistant et à un moment donné, prendre plus de
responsabilités.
Pablo Niederberger, impliqué à Frisson durant presque 25 ans.
En fait, on pouvait rentrer dans le métier petit à petit. Et il y avait aussi pas seulement ce système pour la technique, mais aussi pour la programmation. On avait par exemple un groupe de personnes qui organisaient la Rushdie Fest. Il y a eu différents noms pour ces soirées. Ça faisait aussi partie de ce programme de formation.
Je peux te vorstellen, es hat Zeit gegeben, wo die Bands so Demo-Kassetten geschickt haben.
Tu dois t'imaginer qu'à l'époque, les groupes de musique nous envoyaient des cassettes démo avec un dossier, des photos, un texte, toutes ces choses pour se faire connaître. C'était surtout des groupes locaux et des groupes suisses. Et donc, on avait une équipe spécifique qui s'en occupait, qui écoutait et qui établissait tout un programme. Ils se rencontraient régulièrement et faisaient des sessions d'écoute. Et finalement, ils organisaient ces soirées.
Du coup, tu peux entrer dans Frisson en simplement en disant ben, « j'aimerais bien organiser des soirées ». Après, il faut un peu prouver et essayer de vendre quand même un peu ton projet. Et après, tu peux y aller et puis ben, tu organises des soirées et puis tu apprends un peu comme ça en fait, en le faisant.
Selena Buller, impliquée à Frisson depuis 8 ans.
Et ça, je trouve que c'est justement super de la part de Frisson de donner une opportunité à des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu, mais qui aimeraient apprendre et qui aimeraient découvrir justement ce milieu de la programmation, de la production. Enfin, après, tu fais aussi de la com, enfin, tu touches un peu à tout en organisant des soirées. Et du coup, ben, ouais, je trouve que c'est vraiment un lieu qui donne l'opportunité à des gens qui sont intéressés à rentrer dans ce milieu-là, de le faire en fait. Je me suis retrouvée dans les Rushdie Fest, c'est là où après vraiment j'ai commencé à faire du booking. Parce que je connaissais un peu les personnes qui le faisaient avant. Enfin, comme je les connaissais, j'avais déjà un peu parlé du fait que ça m'intéressait de programmer à Frisson et puis des artistes suisses. Et du coup, en fait, on m'a demandé et puis j'étais là, let's go. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai mis un pied dans ce milieu-là. Et puis maintenant, au final, c'est un peu grâce à ça que j'ai continué dans le milieu culturel et puis que je continue à travailler là-dedans. Je pense que c'est un peu le début de mon aventure en tant que aussi programmatrice et du milieu culturel. C'est un peu commencé à Frisson.
Et ensuite, à chaque fois qu'on cherchait une nouvelle personne pour la programmation, on l'initiait à tout.
C'était une formation qui durait un an et demi et qui était très réfléchie, avec beaucoup de personnes qui nous encadraient. Il y avait ce qu'on appelle des modules.
Julia Crotet, membre de l'équipe Frisson pendant plus de 15 ans.
À l'époque, ça n'existait pas, des formations comme ça, où tu apprends à gérer un club et à faire de la programmation. Il s'agissait toujours de parcours de vie qui aboutissaient un peu par hasard à ce domaine-là. Et là, il y avait vraiment des modules d'apprentissage très bien pensés.
Il y avait un stage à la technique, un stage à la cuisine ou à la conciergerie. Tu devais tout savoir faire. Comment changer les humains, comment changer les rouleaux WC. Tu devais savoir quoi faire quand c'était bouché, comment nettoyer, bref, tout. En fait, on partait du principe que la personne qui était responsable de la programmation était aussi responsable de tout le reste. C'était à l'époque où nous n'étions vraiment que deux. Il fallait en fait pouvoir tout faire.
J'ai fait une longue passation avec David Unternerer qui était en poste avant moi. On a pu travailler ensemble quand même pendant bien, je sais plus, c'était 2 ou 3 mois, mais on a vraiment eu du temps. Et ça, c'était ultra précieux pour moi d'avoir vraiment cette passation de connaissances, de compétences. À la fin, là, d'ailleurs, je lui disais, mais ce serait bien que tu restes, en fait. On serait peut-être pas trop d'être deux.
Justement, c'est rock'n'roll, mais en même temps, c'est très pro. Dès le début que j'ai commencé, les responsables, les assistants qui me formaient m'ont directement fait sentir ce côté professionnel. Sérieux aussi, que voilà, il fallait pas être sous quand on travaillait, il fallait pas prendre de drogue quand on travaillait, tout ça. Ouais.
Ça a été hyper formateur aussi dans les soirées qu'on organisait avec Fry, par exemple, où c'était les premières soirées que j'organisais. Et je me souviens à l'époque, c'était Anya à la programmation. Et puis...
Marjo Colo, liée à l'histoire de Frisson depuis 5 ans.
Qui à la fois me coachait, m'expliquait plein de trucs, des fois brainstormait aussi, mais comment on pourrait faire que la soirée, elle marche bien et qui... Ouais, ça m'avait hyper touché la confiance qu'elle me donnait. Et puis en même temps, on n'est pas non plus lâché en mode ah ben non, en fait, ta soirée, elle est nulle, elle ne marche pas, il y a du défi. Enfin, il y avait vraiment un truc hyper enrichissant et je trouve que c'est hyper important de montrer ça. Et c'est plein de personnes qui font peut-être leur premier pas et qui réalisent tout ce qui se passe autour et comment on crée un événement en fait et qu'il y a du boulot. Il y a plein de personnes de ma famille qui ne savent pas du tout ce que je fais et qui ne comprennent rien. Et ce n'est pas grave. Mais je pense que s'ils venaient bosser de temps en temps à l'accueil, à la billetterie, peut-être qu'ils auraient l'occasion d'apprendre.
À Frisson, on forme énormément de stagiaires. Après, ça dépend tout de la personne, à quel point, à quel rythme elle vient travailler, à quel rythme elle apprend, si elle est intéressée ou pas. Mais généralement, au bout d'une année, on a déjà bien des bases pour passer assistant et puis après responsable.
Ouais. Vincent Sudan.
Après, ça dépend aussi de la place qu'il y a dans l'équipe. Il faut leur expliquer ce que tu fais, par exemple, quand tu es en train de mixer. Tu dis, ah ouais, mais là, par exemple, la guitare, elle est un peu aiguë comme ça, donc peut-être c'est bien de descendre un peu les aigus. Et on forme beaucoup aussi quand le stagiaire est derrière la table de mixage. Là, on peut leur donner des conseils sur ce qu'ils font aussi. Autrement, il y a vraiment des règles basiques. Hein. Qu'est-ce que c'est ce câble, à quoi il sert. Enfin, il y a beaucoup de théories aussi à transmettre.
Si les équipes répondent avec un engagement et un professionnalisme sans faille, la salle de concert fait face à un marché des musiques alternatives en pleine mutation. Au tournant des années 2000, les clubs ont acquis leur lettre de noblesse et sont largement acceptés des autorités politiques. Il semble désormais bien loin le temps de l'axe sacré du rock en Suisse, où Frisson, la Rote Fabrique de Zurich et l'usine de Genève se partageaient le marché des musiques alternatives.
En 20 ans, la concurrence est bien sûr devenue extrêmement forte. La diversité est plus grande, même à Fribourg, on a le Nouveau Monde, le Bad Bone, bien sûr, depuis longtemps, qui couvre des domaines similaires, avec parfois d'autres points forts.
Laurent Steyert, impliqué à Frisson depuis les années 90.
Je trouve ça plutôt positif et stimulant d'avoir une telle offre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait le privilège d'être un peu seul à Fribourg. Donc si les groupes venaient jouer à Frisson, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre aux alentours, et aussi parce que Frisson jouissait d'une super réputation en Suisse. Ça, ça a un peu changé. C'est surtout lié au fonctionnement du marché de la musique et des salles de concert qui a totalement changé. C'est pour ça que Frisson n'a plus l'exclusivité.
C'était un contexte qui était très concurrentiel, avec énormément un tissu de salles et de clubs en Suisse qui est très très fourni. C'est plutôt une bonne chose en soi, hein, parce que ça permet une grande diversité, mais avec beaucoup de concurrence sur... déjà, rien qu'à Fribourg, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, au niveau de la capacité de la salle, c'est sûr que remplir une salle de 1200 places avec des concerts, c'est pas simple. Et puis, avec une grosse concurrence qui existait moins à l'époque, je pense, bah, notamment sur une salle comme les Docks à Lausanne ou même Darmstadt à Berne.
Pour Frisson, le défi est double. D'un côté, il doit désormais compter avec des salles de taille similaire, souvent dotées de subventions bien plus importantes que celles dont bénéficie la salle fribourgeoise. De l'autre, le club tient à maintenir des prix d'entrée accessibles, bien loin des pratiques des autres clubs du pays.
Wir hätten ja gewusst, dass les Docks aufgeht in Lausanne und dass nachher alle.
On savait que les Docks allaient ouvrir à Lausanne et que ça allait attirer du monde là-bas. Ils ont vraiment surenchéri au niveau des cachets. Et ça a généré beaucoup de billetterie, à tel point que Frisson ne pouvait plus rivaliser.
Und ich hast mit der Zeit hast dann irgendwie so gemerkt,
Avec le temps, on s'est rendu compte que les agences s'adressaient à Frisson uniquement quand elles n'obtenaient pas de date à Zurich ou à Lausanne, parce que tout était déjà occupé. On est devenu un bouche-trou. Ça a entraîné des problèmes financiers, car on avait quand même besoin de ces grosses soirées pour continuer à financer les petits événements. Et on arrivait à en faire de moins en moins.
Damit du die kleineren Sachen kannst finanzieren, oder? Und dann hat das einfach langsam so ein bisschen weggefallen. Ich meine, dann im 98 ist
en 98, si je me souviens bien, peut-être que c'était en 97 ou en 99, mais en tout cas, à la fin des années 90, nous avions 12 ou 13 sold-outs par année. Et à partir de 2002 ou 2003, si on avait un sold-out durant l'année, c'était déjà beaucoup.
Quand on a réalisé que Frisson n'était plus unique dans le paysage et qu'il n'était plus possible de booker les groupes qu'on souhaitait, j'exagère un peu, au moment où on a réalisé qu'on n'était plus aussi exclusif,
Laurent Steyert.
Und jetzt sind wir noch stark involviert gsi und wir uns überlegt ja, wie
À ce moment, on était encore très impliqués. On s'est donc demandé à quoi Frisson ressemblerait dans quelques années. C'est peut-être en 2005, 2006, 2007 ou 2008, dans ces années-là, qu'on y a sérieusement réfléchi et qu'on a réalisé qu'on perdait notre pertinence alors que de nouvelles offres apparaissaient sur le marché. On s'est demandé, on fait quoi maintenant ? Ça a suscité des craintes chez tout le monde. Qu'on n'avait pas de distance critique par rapport à Frisson et qu'on était très impliqués, on a décidé d'essayer de trouver quelque chose qui nous permette de garder la même importance qu'il y a 3-4 ans.
Et
au final, on a compris que les temps changent, qu'il faut s'adapter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, quand on interroge les jeunes générations, elles voient Frisson de façon différente. La salle fait partie d'un marché dynamique, enfin, dans un marché des musiques indépendantes qui est très dynamique. Ils ont aujourd'hui des craintes d'un tout autre ordre que celles qu'on avait à l'époque.
Ce qui est délicat, c'est de trouver un équilibre entre des soirées qui vont faire de l'argent, entre guillemets, et puis remplir la salle, c'est sûr, quand tu fais un concert soldat, tu remplis, mais il y a aussi toute une mission de la salle qui est de faire découvrir des artistes ou de programmer une frange d'artistes qui ne remplissent pas forcément la salle. Et ça, en fait, c'était compliqué de trouver des équilibres, mais on a essayé des choses qui ont assez bien marché, en fait. Par exemple, tu vois, tu fais des soirées étudiantes où tu as 1200 étudiants. Alors, c'est sûr que artistiquement, c'est peut-être pas le truc le plus sexy qui soit, mais en même temps, il y a une grosse population étudiantine à Fribourg, donc c'est aussi important de s'adresser à eux. Et puis, c'est vrai que ces soirées étudiantes, elles nous permettaient de faire des plus petits concerts ou des concerts un peu plus découvertes où il y avait moins de monde. Où ça équilibrait aussi le budget, quoi. C'était une manière d'équilibrer les chiffres.
On devait évidemment gérer les finances et ne pas se retrouver soudainement dans une situation où il n'y aurait plus de liquidité.
Mathias Bierry.
Quand on a compris qu'on aurait moins de soirées, on a essayé de compenser en nous ouvrant davantage à des soirées plus commerciales. Et en collaborant avec des radios étudiantes, Radio Unimix par exemple. On savait que les étudiants viendraient ici pour faire la fête et qu'il y aurait beaucoup de monde. À l'époque, on a compensé de cette manière, en espérant aussi que les soirées de Noël fonctionnent bien. Et on a pu parfois sauver une année entière grâce à ces soirées, sauver financièrement, je veux dire.
Moi, c'est vrai que j'aimais bien cette idée de dire on fait un concert de Noël. Parce que c'est aussi, il y a le concert de Noël, mais il y avait les soirées de Noël 24, 25. C'était une période qui était très chargée pour les équipes aussi, enfin qui l'est encore d'ailleurs, je pense. Donc c'est une période qui est un peu douloureuse, on va dire, pour les équipes, mais qui en même temps est assez festive et assez chouette. Et moi, je trouvais chouette de faire des concerts de Noël avec des artistes suisses et si possible d'ici aussi, mais enfin surtout suisses en tout cas, parce que t'as aussi tous les gens qui rentrent pour les vacances, qui rentrent, tous les Fribourgeois qui vivent plus forcément à Fribourg et qui rentrent voir leur famille. Et c'était une belle occasion de se réunir aussi.
Je pense qu'il faut continuer d'investir beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce genre d'endroit parce que c'est malgré tout, cette culture-là, elle est quand même encore le parent pauvre de la culture en général. C'est-à-dire que
Franz Streichler, membre fondateur de Frisson.
ce que des endroits comme Frisson, je ne sais pas les chiffres, mais je vois bien comme ça se passe un peu partout, par rapport à ce que reçoivent les cultures dites établies, c'est un peu des cacahuètes, quoi. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'heures sup et puis de gens passionnés pour que la chose tourne. Voilà, c'est chapeau cette équipe.
Et de l'énergie, il en faut pour faire tourner cette salle de 1200 places, sans compter la bobine qui offre 300 places supplémentaires. Au fil des ans, la structure a choisi de rémunérer toutes les personnes qui travaillent au succès de ce lieu. Des salaires modestes, mais qui sont largement compensés par une motivation à toute épreuve et un engagement personnel intarissable.
Frisson, c'est des super patrons d'entreprise.
Yvan Salin, membre de l'équipe Frisson depuis près de 25 ans.
Parce que... Il faut avoir une ligne conductrice, puis là au milieu, être créatif pour pouvoir répondre aux défis quotidiens.
Le fait que ce soit professionnel, c'est une très bonne chose. Et puis du coup, moi, je suis très contente de pouvoir valoriser ces métiers-là, etc.
Léa Romanence, active à Frisson depuis 5 ans.
Mais avec des conditions de travail qui sont quand même relativement basses au niveau des salaires, en tout cas. Et donc, du coup, toutes les personnes qui décident à un moment de travailler là le font aussi pour l'amour de la structure avant même pour la question du job que c'est. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me rends compte parce que vraiment, par rapport aux autres structures, en tout cas en Romandie, on est vraiment en dessous. Mais par contre, ça fonctionne à fond, quoi. Et puis, on a des gens extrêmement compétents qui travaillent.
C'est vrai que quand moi, j'étais là-bas et que j'allais chercher des affiches, il n'y avait que deux personnes au bureau et Mara qui nettoyait la salle. Maintenant, au bureau, je ne sais pas combien ils sont 4, 5 plein temps. Donc ça a beaucoup changé de ce point de vue-là. Et je pense que la professionnalisation, elle était inévitable. Aussi parce que tu dois à un moment ou à un autre attirer des talents pour pouvoir rester déterminant sur le marché de la musique. Tu ne peux pas juste tous les 4 ans attendre qu'il y ait un shuffle qui se passe avec les gens qui sortent et recommencer avec des gens que tu formes de zéro. Il y a une maturité aussi qui fait qu'à un moment ou à un autre, si tu regardes l'opéra et tout, ça fait des années que c'est là. Et du coup, tu as des gens super qualifiés à tous les postes. Le Frisson, ça a quand même commencé il y a 40 ans. C'est de l'âge aussi où, si tu prends une personne normale, tu vois, maintenant, elle est professionnelle. Elle a 10 années d'expérience, 15 années d'expérience. Donc, c'est normal que les gens qui fassent tourner cette boîte, d'une certaine manière, aient aussi une certaine maturité. Après, je pense que c'est très important d'avoir des gens quand même relativement jeunes pour ne pas se détacher de la base publique du futur. Et il faut des gens jeunes aussi parce que il faut avoir un sacré drive. Frisson, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de passion. C'est aussi pour ça qu'à un moment, je suis parti du comité, parce que j'aime ce club. Hein. Faut pas mal me comprendre, mais à un moment, c'est un peu comme dans toutes les relations où tu donnes beaucoup, à un moment, t'es là, ouah, je peux plus et je préfère partir avant que mon sentiment devienne négatif. Donc c'est aussi, je pense, une espèce de rotation qui se fait naturellement au sein du bureau, mais il faut d'une certaine manière garder un sang relativement neuf et frais.
Si cette question de la professionnalisation des postes peut paraître récente, il n'en est rien. Il y a plus de 30 ans, les mêmes préoccupations étaient au centre des réflexions des équipes de l'époque. On retrouve l'un des cofondateurs de Frisson, Jacques Chouvet, au micro de la journaliste Martine Béguin dans une émission d'Espace 2 diffusée à l'été 1990.
Le principe des bénévoles, c'est une chose significative de Frisson. C'est un peu la base de son fonctionnement.
Oui, malheureusement, actuellement, on est encore là. C'est un problème qui dure depuis 8 ans qu'on existe maintenant. Le bénévolat, je veux dire la culture quelque part, ça doit être bénévolat à Fribourg. La ville aide pour une salle, elle aide tout, mais elle aide pas après pour continuer à payer les gens, à tenir une infrastructure debout. Ça, c'est nous à se débrouiller avec le soi-disant bénévolat. Et moi, je trouve que c'est malsain, c'est pas bien le bénévolat, ça va un moment. Ce qu'on fait ici, c'est quand même du boulot qui est sérieux. On est au bureau 2 personnes toute la semaine, où on prend les téléphones, on fait des fax, on cherche des contacts et tout ça. Et ça, c'est pas du bénévolat, ça c'est quelque part, c'est un job comme n'importe quel autre job.
Page de marque, l'alternative, est-ce que c'est pas justement d'être bénévole?
Oui, mais bien, c'est des clichés, je veux dire. L'alternative, c'est un cliché, le bénévolat, c'est un cliché. Je veux dire, tout le monde a besoin de l'argent pour payer sa location, alternative ou pas alternative, tout le monde a besoin de l'argent pour vivre. Alors, Moi, je suis contre de mettre des clichés alternatifs, rester tranquille, soyez bénévolat. Non, non, non. Nous faisons le boulot comme n'importe qui d'autre. Non, c'est un job en temps complet, tout.
Autre préoccupation récurrente, le visage du quartier de la Fonderie qui se transforme de façon spectaculaire. Bien loin de la friche industrielle de l'époque, le quartier se mue progressivement en zone résidentielle. En 2013, alors que le club fête ses 30 ans et sa millionième entrée, l'avenir du club fribourgeois est une nouvelle fois menacé. Face à cette gentrification annoncée du quartier, un groupe de travail est chargé d'esquisser des pistes d'avenir. Deux options s'imposent, poursuivre sur le site actuel en bonne collaboration avec les autorités ou alors redémarrer un nouveau projet et créer un centre de compétences des musiques actuelles sur le site de Blue Factory, là encore, sur une ancienne friche industrielle.
L'idée était du coup de dire si Frisson doit changer d'endroit parce que l'environnement actuel
Gilles Vider.
Ou l'environnement futur à l'époque devient compliqué, Frisson doit rester au centre-ville. Si on doit relocaliser Frisson en périphérie, ça ne marchera pas. Donc on a eu ces discussions-là, et du coup c'était chercher des alternatives pour Frisson, notamment justement sur le site de Blue Factory, qui aurait été aussi une très très belle opportunité, mais après c'était plus des questions politiques, et politiques culturelles, et là je pense que la ville des fois elle n'est pas toujours prête à investir, malheureusement.
On avait fait un concept qui s'est monté en une semaine parce que c'était vraiment dans l'urgence pour répondre à un communiqué de presse et à un article de presse qui avait été publié comme quoi Frisson serait pas sur le site de Blue Factory. Et je pense même qu'ils avaient peut-être oublié de nous prévenir. Je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais c'était pas très cool en tout cas. Et si mes souvenirs sont bons, c'était aussi en réaction au fait qu'il y avait le nouveau plan d'aménagement qui venait d'être voté et qu'il y avait ces projets de construction tout autour de la salle. Et donc on avait fait cette journée et l'idée c'est qu'on avait, en fait on avait monté une soirée comme on aurait monté une soirée normale, mais en commençant à 8h du mat. Donc les portes ouvraient à 8h, il y avait des concerts de groupes locaux, il y a une grosse mobilisation là d'artistes suisses qui sont venus jouer, et ensuite on est parti dans l'after quoi. Et ça, c'était une grosse journée quoi. Et en fait on a mis tout le monde dehors à 17h, on a fermé les portes, en signe de protestation, on a fermé Frisson le samedi soir. Aussi pour montrer que quand un lieu est fermé, ben les gens ils sont dans la rue en fait. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un lieu ouvert et d'avoir un lieu en ville.
Les plus grosses plaintes, c'est la question du bruit. Donc c'est tout ce qui est, enfin voilà, le fait qu'on fasse des soirées jusqu'à 5h du matin. Celle qu'on fait jusqu'à 5h du matin, en général, en plus, c'est quand il y a beaucoup de basse. Et donc ça, c'est vraiment, ouais, les... Ça, c'est clair que ça résonne assez loin à la ronde. Et on le sait, hein, parce qu'on a été faire des tours du quartier. on comprend, en fait, même, que ça puisse déranger. Pour l'instant, on est encore dans une phase où ça fonctionne plus ou moins. C'est très récent, hein, le fait que toutes ces nouvelles habitantes et habitants soient arrivées. On sait que c'est compliqué déjà et qu'on va devoir réfléchir à probablement faire des travaux, mieux isoler la salle, mieux gérer l'extérieur. Ça va nous occuper en tout cas très fortement, je pense, les prochaines années.
Une des chances d'une salle comme Frisson, qui n'est pas le cas de beaucoup de salles en Suisse, c'est que à un moment donné, des gens ont été suffisamment intelligents et intelligentes pour acheter la salle. Donc en fait, Frisson, et plus précisément la coopérative Fonderie 13, est propriétaire des murs. Et ça, c'est une force quand même assez importante.
Agnès de la Croce.
Parce que ça veut dire que tu peux, à un moment donné, soit revendre la salle, revendre le terrain, qui aujourd'hui vaut, j'imagine, beaucoup plus qu'avant, soit simplement juste te battre pour pouvoir rester là, parce que t'es propriétaire, c'est chez toi.
Une des choses qu'on a fait au moment où les habitants et habitantes ont déménagé, c'est d'aller mettre des flyers dans toutes les boîtes aux lettres.
Léa Romanence.
Vraiment de tous les immeubles autour, avec où c'était marqué dessus « Nous sommes à votre disposition ». Si vous avez quelconque souci, n'hésitez pas à nous écrire un email avec notre adresse email. On vous offre volontiers une invitation pour la soirée de votre choix. Écrivez-nous à cette adresse email. Et si vous voulez aussi venir visiter la salle, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous montre à quoi ça ressemble. Quoi. N'ayez pas peur de venir, en fait. Je pense que... Donc, on a dû distribuer presque 1000 flyers. Hein. Je pense qu'on a eu 3 retours. Donc, un bout, voilà, on a... C'est pas grave, hein, moi, j'en veux à personne, mais c'est vrai qu'on a essayé de faire aussi un pas dans leur sens. On a aussi essayé de faire un effort. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt, en tout cas.
Ça fait un peu peur dans le sens où... avant, c'était un quartier industriel, il y avait une forêt.
Lorelai Moron, liée à l'histoire de Frisson depuis son enfance.
On était tranquille. Et maintenant, depuis 2018-19, sauf erreur... Il y a eu tous ces immeubles qui ont poussé comme des petits pins et forcément, ça a posé des questions pour l'avenir de Frisson sur le long terme. Mais j'espère que ça restera encore pour les 40 prochaines années, quoi. Au moins.
Mais dans un futur proche, c'est un tout autre défi auquel va devoir faire face la légendaire salle fribourgeoise. Comme partout dans le pays, le monde de Frisson s'arrête brutalement ce fameux vendredi 13 mars de 2020.
Franchement, c'était méga dur. Quand j'y repense, c'était vraiment dur. On se sent inutile, totalement inutile.
À suivre. Un podcast de l'association Frisson. Réalisation, Valentin Bruguère et Noémie Guignard. Musique, Eric et Alexis Rueger. Traduction, Noémie Buchy, Julie Hugo et Kim Sanner. Graphisme, Lucie Bayot. Et un merci tout particulier à Yvan Salin, Sonia Maras, Franz Streichler et Daniel Prella pour leur précieuse mise à disposition d'archives et d'enregistrements.